Prépare-toi à rencontrer ton Créateur. On a commencé à chanter des chants qui nous rappellent qui est Dieu et ce qu'il a fait. Amos, un prophète qui date de très très longtemps, a prophétisé et a dit aux personnes qui habitaient au peuple d'Israël, prépare-toi à rencontrer ton Créateur. C'est une parole qui peut faire peur ou qui peut être encourageante. Qui peut faire peur si on n'est pas, on ne sait pas comment se considérer, se positionner face à Dieu ou si notre relation avec lui n'est pas terrible. Cette parole peut faire peur. Mais rien n'est jamais foutu. L'Éternel rappelle au peuple d'Israël qu'il est là encore pour pardonner leurs fautes et pour être en relation avec eux. Je vous rappelle ce qu'on a vu les fois précédentes. Dans les premiers chapitres du livre d'Amos, donc on est au 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Enfin, pour remettre un peu, j'avais oublié de vous redire ça. Donc c'est très long hein, quand même. Dans les premiers chapitres, chapitres 1 et 2, Amos dit que le peuple d'Israël n'est pas meilleur que les autres. Ils sont tous pourris autant que les autres nations autour. Ils sont autant injustes que les autres nations et méritent autant le jugement de Dieu que les autres. Et ce texte nous rappelle aussi que Dieu va rendre justice à tout le monde, même aux injustes. Ça, c'est chapitre 1, 2. La fois précédente, au chapitre 4, on a vu que Dieu a appelé de nombreuses fois son peuple à revenir à lui. Mais le peuple n'a pas voulu écouter Dieu. Le peuple n'a pas réussi à écouter Dieu. Et on a vu une évolution par rapport à l'éloignement du peuple vis-à-vis de Dieu. Le peuple voulait se satisfaire. Et le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, a insisté, mais sans succès. Le peuple n'est pas revenu. Dans les chapitres qui suivent, donc, on va continuer la fin du chapitre 4 et le chapitre 5, donc du 4, 12 à 5, 17, on a Dieu qui lance un dernier appel au peuple. Il va lui dire ceci. Je commence la lecture à partir du verset 12 du chapitre 4. C'est pourquoi, Israël, voici comment j'agirai avec toi. Et puisque je vais agir contre toi, tiens-toi prêt, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car attention, c'est lui qui a fait les montagnes, qui a créé le vent. C'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée. Lui qui, des ténèbres, fait naître l'aube. Lui qui marche sur les sommets, les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, Dieu des armées célestes. Écoutez bien cette parole que je profère contre vous, cette lamentation sur vous, gens d'Israël. Elle est tombée et ne se relèvera plus, la communauté d'Israël. Elle est étendue sur le sol et nul ne la relève. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. La ville qui levait 1 million de soldats n'en aura plus que 100, et celle qui en levait 100 n'en aura plus que 10 pour la défense d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. N'allez pas chercher à Bethel, n'allez pas chercher à Gilgal et ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera déporté et Bethel deviendra néant. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Autrement, il fondra tout comme un feu qui les consumera sur les descendants de Joseph sans qu'à Bethel, personne ne parvienne à l'éteindre. Vous changez le droit en poison et vous renversez la justice. L'Éternel a créé Orion et les Pléiades. Il transforme en aurore les profondes ténèbres et il réduit le jour en une nuit obscure. Il fait venir les eaux de l'océan pour les répandre sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et sur la citadelle. Vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Par conséquent, puisque vous exploitez le pauvre, et que vous lui preniez du blé de sa récolte. À cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin. Car je connais vos nombreux crimes et vos énormes fautes. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin et vous lésez le droit des pauvres en justice. Aussi l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendiez. Haïssez donc le mal aimez ce qui est bien et rétablissez le droit en justice. Alors peut-être l'Éternel, Dieu des armées célestes, aura-t-il compassion du reste des descendants de Joseph. Voici donc ce qu'annonce le Seigneur l'Éternel, Dieu des armées célestes. Sur toute place, on se lamentera, et dans toutes les rues, on s'écriera « Hélas, hélas !» On conviera les paysans à prendre part au deuil, et ceux qui savent des complaintes à se joindre aux lamentations. Et dans tous les vignobles, on mènera le deuil, car je passerai au milieu de toi. L'Éternel le déclare. Voilà, on continue dans la suite du livre d'Amos, avec des appels de Dieu qui ne sont pas toujours réjouissants à entendre et pas toujours faciles à annoncer. Rappel de ce que le peuple a fait. Versets 10 et 12, ils disent qu'ils haïssent ceux qui défendent le droit en justice. Ils détestent celui qui parle avec sincérité. Ils oppriment le juste, ils acceptent des pots de vin et lèsent le droit des pauvres en justice. Chapitre 2, comme je vous le rappelais au départ, Dieu leur annonce tout ce qu'ils ont fait de mal. Chapitre 2, verset 6. Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai prié. Car pour un pot de vin, ils vendent innocents. Ils piétinent les pauvres en leur brisant la tête dans la poussière. Ils faussent le droit des humbles. Le fils comme le père vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amande. Je vous rappelle le problème du peuple. Le premier problème, c'est leur relation avec les autres, avec leurs semblables, avec leurs voisins. Ils les oppriment, ils les maltraitent, ils sont injustes. Tout ça pour satisfaire leur propre chair, leur propre envie. Le deuxième problème, c'est qu'ils prennent Dieu pour un imbécile. Ils donnent l'impression d'être bons avec l'Éternel, de faire les choses bien, mais c'est juste pour se satisfaire. Le peuple est encore plus responsable que les autres. Le peuple connaît les exigences de Dieu. Le peuple sait ce que Dieu aime ou n'aime pas. Et pourtant, il continue. Prépare-toi à rencontrer ton Créateur, dit Amos au peuple d'Israël. Prépare-toi à écouter les avions. Amos rappelle qui est Dieu. C'est ce que je vous avais proposé la dernière fois, de voir ce matin la description qui est faite de Dieu. D'abord, Amos le présente comme le souverain du monde entier, celui qui exerce une autorité, qui a plein pouvoir, qui a un pouvoir absolu sur toutes les nations, et même sur Israël, bien entendu. Quand on veut connaître une personne, souvent on regarde à deux choses, ce qu'elle dit d'elle-même et comment elle agit. Et c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre une personne. On va essayer d'éviter de lui coller des étiquettes. Donc, on va regarder ce qu'il fait et ce qu'il dit être. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Hop là, merci. Verset 13 du chapitre 4. Il a fait les montagnes et le vent. Il contrôle les forces de la nature. C'est lui qui va donner la pluie ou pas. C'est lui qui va envoyer le feu pour détruire. Il peut guérir des malades, il peut ressusciter des personnes, il peut envoyer des maladies, comme on a vu la fois précédente, il peut faire mourir des gens. On voit qu'il est créateur, il a créé Orion et les Pléiades, ou autrement dit, il a créé la constellation, les galaxies, l'univers. On voit que c'est lui qui fait les journées, on l'a bien rappelé encore dans tous les chants qu'on a chantés. Il a fait le jour, la nuit. Il fait connaître à l'homme sa pensée. Il relève. Et au chapitre 9, on voit aussi qu'il a bâti les cieux. Il y a quelque chose d'assez interpellant quand Amos rappelle qui est Dieu dans le texte. Il ne le rappelle pas à n'importe quel moment. Il le rappelle à un moment où le peuple s'éloigne de Dieu. Il va le rappeler à partir du verset 13 où il va dire « Prépare-toi à rencontrer ton Créateur ». Il le dit juste après qu'Israël a refusé d'entendre l'appel de Dieu. Tu as refusé l'appel de Dieu ? Mais regarde qui il est ce Dieu. Regarde qui est Dieu. N'oublie pas qui il est Dieu. Amos rappelle au chapitre 4 à la fin que Dieu a l'autorité, a le pouvoir de juger Israël. Au verset 8 du chapitre 5, on a à peu près la même chose. Il commence une description de tout le mal de ce que le peuple a fait. Et à un moment donné, il va dire stop. Il va dire Dieu est le Créateur. N'oublie pas que c'est le Créateur à qui tu offenses, que tu offenses. Et puis, j'avance un peu dans les chapitres, on n'a pas lu, mais chapitre 6, on voit que le Seigneur, Dieu, est le Seigneur sur toutes les nations et qu'il peut utiliser un autre peuple pour juger son peuple. Et c'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera, par exemple, avec le royaume du Sud, avec Juda, en 597, moins avant Jésus-Christ, bien entendu. Dieu va utiliser le royaume de Babylone pour juger son peuple, le peuple de Juda. Dieu maîtrise tout. Il contrôle tout. C'est comme ça qu'il se présente. C'est comme ça qu'il agit dans ce chapitre et même dans tout le texte. Comment il se présente? De manière globale, il va s'appeler Adonai, Yahweh, le tétragramme. Et on le voit ça de nombreuses fois. Dans ces 81 fois, les nombres ne sont pas importants. Hein. C'est juste pour vous montrer l'idée. Dans toutes ces fois, Amos renforce l'idée que Adonai est souverain et les maîtres. Il dit Yahweh 81 fois, et dans ces 81 fois, il renforce par Adonai. C'est pas fini. Pour enfoncer encore le clou, il va dire 21 fois, pardon, il va mettre en avant que l'Éternel est le Dieu des armées célestes, et un peu quelqu'un qui fait justice, quelqu'un qui a rendre la justice. Ça, il le fait 8 fois dans tout le livre, et rien que dans le passage, il le fait 5 fois. Amos insiste vraiment dans ce chapitre pour dire que c'est l'Éternel qui est souverain, qui juge, et qui jugera. Prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Prépare-toi, mets-toi bien en règle face à lui. Amos veut vraiment alerter le peuple. Hein. Il n'est pas là pour faire du folklore. Amos veut vraiment alerter le peuple. Vous n'avez pas à faire n'importe qui. C'est le Dieu, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé Orion. C'est lui qui fait les saisons. C'est lui qui est au-dessus de tout. Tout lui est soumis. Rien n'est au-dessus de lui. Tout vient de lui et rien ne lui échappe. Même les nations qui sont les plus éloignées, rien ne lui échappe. Dieu les connaît. Dieu connaît leur injustice. Et Dieu leur rendra justice. Amos ne rappelle pas juste que Dieu est aux commandes d'une machine qui a déjà été créée. Non. Il rappelle qu'il est au-dessus. Il fait fonctionner la machine, mais en même temps, il a créé cette machine, qu'il est le Créateur. Psaume 115 nous le rappelle. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amos rappelle que s'il faut s'approcher d'un Dieu, c'est de celui-là. Il n'en existe pas d'autre qui soit supérieur à lui. C'est de Dieu, l'Éternel, Yahweh, Adonai, le Dieu de l'Alliance, qu'il faut se rapprocher. Pas d'un Dieu en paille. Ça peut nous amener 2 pistes de réflexion à ce moment-là, déjà. Que la création n'est pas Dieu. Que les choses viennent de Dieu, mais que la création n'est pas Dieu. Et si qu'il faut adorer quelqu'un, s'il faut prier quelqu'un, c'est l'Éternel, le Dieu de la Bible. Et si on est déjà en relation avec Dieu, ça nous rappelle qu'on peut tout nous lui soumettre. Parce qu'il se fait tout faire. Il maîtrise toutes choses. L'Éternel veut mettre de l'ordre dans cette création. Mais avant, encore une fois, il propose son pardon. Il propose de faire la paix avec les hommes. On l'avait vu au chapitre 3, que Dieu ne prend pas les gens en traître. Il ne les prend pas par derrière. Il n'a compris rien sans avoir d'abord révélé ses plans. Bien au contraire, il va user de patience pour qu'aucun ne subisse le jugement. C'est Pierre qui le rappelle. Et pour leur faire comprendre ce qu'il va faire et ce qu'il n'a pas envie de faire, mais ce qu'il va faire s'il ne veut pas revenir à lui, il leur donne une image, une photo, une capture d'écran de ce qui se passera plus tard. Verset 2, verset chapitre 5. Elle est tombée et ne se relèvera plus la communauté d'Israël. Elle est étendue sur le sol et nul ne la relève. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. La ville qui a enlevé 1 million de soldats n'en aura plus que 100. Celle qui a enlevé 100 n'en aura plus que 10. Sur les places, on se lamentera. Et dans les rues, on dira hélas, hélas. On conviera même les paysans. C'est ça, en fait, qu'il veut dire. Même les paysans, les gens qui sont a priori les plus insignifiants, même eux seront conviés au deuil. Et ceux qui savent faire des complaintes en feront. Et dans tous les vignobles, on mènera le deuil. Car je passerai au milieu de toi, l'Éternel le déclare. Amos nous fait une description d'une ville désolée. Une ville où plus rien ne se passe, à part le deuil. Et même les gens qui sont avisés ne se tairont, parce qu'ils savent que c'est l'Éternel. Mais Dieu ne veut pas encore juger, il veut user encore de patience. Et dans tout le livre d'Amos, en tout cas, déjà tout ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, Dieu paraît triste de ce qui se passe, paraît triste de voir cette situation, et les supplie, encore une fois, de faire le bon choix. Chapitre 2, des versets 9 à 11, Dieu va leur dire à chaque fois, « Vous avez fait ça, vous avez encore fait ça et encore ça. Pourtant, moi j'ai fait ça pour vous. J'ai aussi fait ça. J'ai encore fait ça. N'en est-il pas ainsi, Israélite ?» Une interpellation assez triste et on peut sentir un regard un peu triste de Dieu. Chapitre 4, Amos rappelle tout ce que Dieu a fait pour son peuple et tous les appels qu'il lui a lancés par 5 fois. Et on avait ce refrain qui venait à chaque fois. Malgré cela, malgré tout ce que j'ai fait, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Quelle désolation, quelle tristesse de la part de Dieu. Et là, encore dans notre passage, il va les supplier. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. N'allez pas chercher à Bethel, n'allez pas à Gilgal et ne vous rendez pas à Beersheba. Car Gilgal sera déporté et Bethel deviendra néant. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous vivrez. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, afin que vous viviez. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien. Dieu répète les choses, Dieu se répète et insiste. Si vous voulez vivre, alors tournez-vous vers moi, approchez-vous de moi. Arrêtez vos fausses adorations, vos faux cultes. Arrêtez d'aller à Bethel, à Gilgal, des lieux où vous pouvez adorer des dieux en paille. Non, venez me rencontrer dans mon temple, dans ma maison. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. Efforcez-vous de faire le bien et non ce qui est mal et vous vivrez. Qu'est-ce que Amos rappelle ? Il leur dit juste, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Un slogan qu'on connaît bien. Mais c'est ce que Amos déjà disait à cette époque. Aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Quelle est la méthode que Amos propose pour changer cette façon de vivre ? Elle est simple. S'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu avant tout, se tourner vers l'Éternel. Et après, les choses iront mieux. Le péché est bien présent. Le péché est bien présent. On n'arrive pas des fois à échapper au mal. On n'arrive pas des fois à faire le bien qu'on voudrait. Simon nous l'a rappelé dans sa prière. On n'arrive pas des fois à ne pas pouvoir acheter des choses. Le péché est bien là. Alors, comment faire ? S'approcher de Dieu, tout simplement. Salomon, quelques siècles plus tôt, c'est un homme qui a été rempli de sagesse par Dieu. Et dans le livre des rois, il a construit le temple et pour l'inauguration du temple, il va prier. Il va demander à Dieu, et il va lui demander plusieurs fois d'écouter la prière. Il intercède pour le peuple, il demande à Dieu d'écouter la prière du peuple quand le peuple priera. Il lui dit, écoute quand ils te demanderont pardon, écoute-les. Et d'une manière plus globale, il dira, il se peut qu'il commette un péché contre toi. Car, quel est l'homme qui ne commet jamais de péché ? Salomon, un type rempli de sagesse. Sagesse qui ne vient pas de lui, donnée par Dieu. Lui-même dit, quel est l'homme qui ne commet jamais de péché ? Quelle est la solution? Quelle est la solution alors? S'approcher de Dieu. Dieu leur demande, approchez-vous de moi et vous vivrez. Tournez-vous vers moi et vous vivrez. Aujourd'hui, comment faire? Dieu place en chaque croyant son esprit. Son esprit qui nous met en mouvement. Son esprit qui nous aide à nous éloigner du péché. À nous éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas. À nous de voir ce qu'on en fait. À nous de dire oui ou non. Oui, je veux t'écouter. Ou non, je ne veux pas t'écouter. Et pour faire référence aux fois précédentes, si on lui dit non trop de fois, on va voir que ça va être aussi l'escalade dans le péché. Et ça va nous sembler de plus en plus difficile de revenir à lui. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle et Dieu nous appelle à lui. Dieu veut que nous l'adorions, que nous nous tournions vers lui. Amos, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui il est. Amos, ce n'est pas un prophète professionnel, ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son business de prophétiser. Son business, c'est d'élever des animaux et de cultiver des sycomores. Le but de ce gars, c'est de faire du commerce. Pour dire une prophétie comme celle-ci, ce n'est pas très bon pour les affaires. Hein. Donc, ça résonne encore plus fort quand on sait que Amos n'est pas là pour gagner de l'argent. Il est là parce que Dieu lui a demandé de parler. Et il parle. Et tout ce qui satisfait Amos, c'est de rendre gloire à Dieu, d'être dans une bonne relation avec Dieu, de faire ce que Dieu lui demande. C'est ce Dieu, Dieu des armées célestes, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a tout pouvoir, toute autorité, le Dieu qui a un amour démesuré pour son peuple, lui qui est au-dessus de tout, qui est dans le ciel. Il ne se lasse pas de lancer des appels. Il ne se lasse pas d'inviter les personnes à être réconciliées avec lui. Et Paul le rappellera aux Corinthiens. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Dieu insiste, nous vous en supplions, soyons réconciliés, soyez réconciliés avec Dieu. Amos leur dit, Israélites, vous ne faites pas le poids devant Dieu, prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Chers amis, frères et sœurs, on ne fait pas le poids devant Dieu. Nous sommes sur terre et lui, il est au ciel. Dieu peut nous paraître des fois tellement loin, très abstrait, même pour des personnes qui seraient mûres dans la foi, des personnes d'immatures. Dieu peut nous paraître des fois très loin. Cette histoire qui s'est passée il y a très longtemps peut nous rappeler plusieurs choses. Que Dieu est bien présent, même si on ne s'en rend pas compte. Chapitre 1 et 2, si on regarde avec les autres peuples, Dieu est bien présent, qu'on le veuille ou non, il est là. Cette histoire nous rappelle de faire attention à lui, à ne pas l'oublier, à ne pas nous laisser embarquer dans des choses qui nous éloigneraient de Dieu. Il n'y a pas que le péché qu'on pourrait nommer qui peut nous éloigner de Dieu. On pourrait être ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Il y a des choses qui pourraient être bonnes. Il y a des choses, je ne sais pas, si je sais, mais je discutais cette semaine avec des personnes et des fois, trop s'attarder sur des signes de la venue de Christ, on doit être attentif à ça, mais se focaliser des fois trop là-dessus peuvent nous faire prendre, pardon, on se focalise là-dessus et du coup, on oublie d'adorer Dieu. On passe tout notre temps à rechercher des signes, mais on oublie d'adorer Dieu. Certes, Dieu nous demande d'être vigilants, de nous préparer à sa venue, mais le but, c'est de nous approcher de Dieu, d'adorer Dieu, de continuer à adorer Dieu. Et a priori, c'est pas mal. Dieu nous demande de rechercher ses signes, de faire attention d'être vigilant, mais pas au détriment de son adoration. faire de la musique. Ouais, je joue, je fais de la louange. Mais au final, on essaie juste de gratter des accords et on perd l'idée que c'est le but, c'est de l'adoration de Dieu. Ou toute forme de... On anime une discussion autour de la Bible. Je dis ça pour moi, au GBU. Je me suis rendu compte, après quelques années de ministère, que j'ai l'impression de faire des études bibliques à tour de bras, de préparer, mais seulement préparer un texte biblique. Et mon but, je perdais le but de l'adoration. Ça, c'est mal. Ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Comment faire alors pour ne pas oublier le Créateur? De prendre le temps de se rappeler qui il est. Qu'il est là, comme on l'a chanté encore ce matin. Qu'il gouverne, que tout lui est soumis, qu'il est notre Père. Prenons le temps de l'adorer pour ce qu'il est, pour qui il est, et pas pour ce qu'il nous donne. Prenons le temps de regarder ce qu'il a accompli dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie des frères et sœurs, comment Dieu est là. Et même s'il peut agir par des façons dont on n'est pas très adepte, Dieu peut agir des façons qui nous touchent, a priori pour nous, pas. Mais en tout cas, Dieu agit quand même dans la vie des autres. Il faut rester ouvert à cela. Après, si on se rappelle ce que Dieu fait, il nous paraîtra bien plus proche. On va prêter attention à lui. On va faire attention à ce qu'il nous fait. Compte les bienfaits de Dieu. Il faut prendre le temps de les compter. Et après un moment, vous arriverez à un moment où vous n'aurez plus à les compter, tellement ils sont nombreux. Attention. Et continuons d'adorer, de s'émerveiller de notre Dieu. Continuons de chanter les psaumes. Continuons de s'annoncer la mort du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce que nous faisons quand nous prenons la scène. On se l'annonce entre nous. On s'exhorte, on s'encourage. Christ revient bientôt. Continuons à nous raconter les merveilles de Dieu, que ce soit pendant nos activités formelles, où on a un horaire, ou que quand vous allez vous voir les uns chez les autres. Continuons à se rappeler les bienfaits de Dieu. Et arrêtons peut-être de parler des uns et des autres, de médire des uns et des autres sous couvert, de l'aider pour mieux l'encourager. Mais focalisons-nous sur qui est notre Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il nous apporte. C'est le maître de l'univers, c'est lui qui doit être adoré. Notre focus doit être sur lui. Le diable essaie d'éloigner notre focus, même par des choses qui pourraient être bonnes avant. Notre Dieu est au ciel, ne l'oublions pas. À lui la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Je vous propose de prier. Notre bon Père céleste, merci de ce que tu es au ciel, de ce que tu maîtrises tout, rien ne t'échappe. Tu as créé l'univers, tu nous as créés, tu nous y as placés. Et Seigneur, merci de nous regarder, merci de, encore une fois, nous proposer ta main. Merci de ce que tu nous apportes, chacun personnellement. Merci de nous aider à profiter de ta création. Merci pour les vacances que certains ont passées, que je vais commencer. Seigneur, merci de nous aider à contempler ce que tu fais. Aide-nous vraiment à nous focaliser sur toi. Aide-nous à regarder ce que tu fais autour de nous. Seigneur, tu es le Créateur et nous ne voulons pas l'oublier. Que nous avons cette chance, ce privilège de te parler, de te connaître. Alors Seigneur, aide-nous à, comme Paul le rappelait, être là, être des réconciliateurs, des hommes avec toi. Seigneur, que ton esprit encore nous garde de tout mal, nous envoie vers toi et nous aide à nous orienter de plus en plus vers toi pour te rencontrer. Au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.